il y a une, comme une prise de conscience à un moment donné parce que c'est trop facile de se faire une liste de rêves, comme je te disais tantôt, avec voici tout ce à quoi je rêve et tout ça, tout ce que je veux dans ma vie. Puis, tu sais, je veux avoir une entreprise qui a du succès, puis je veux faire tant d'argent chaque année, puis j'aimerais ça avoir tel genre de maison, puis j'aimerais ça avoir tel genre d'horaire, puis j'aimerais ça avoir, tu sais, comme là, tu sais, c'est comme très, des choses qui sont très, très visibles. Mais finalement, moi, j'aime bien, dans De Saison, on parle beaucoup de satisfaction. Puis même au lieu de conciliation, on dit satisfaction, travail, famille, vie personnelle. Puis moi, étant une grande rêveuse, puis étant une milléniale pure et dure, là, dans le sens où j'ai vraiment été élevée en me faisant dire « Sky's the limit, Julie, tu peux faire tout ce que tu veux. Tant que tu le décides, là, go for it. » Puis c'est beaucoup ce qu'on voit aussi dans les médias, les modèles qu'on nous montre, des entrepreneurs à succès, des gens. Mais on ne nous montre pas nécessairement l'envers du décor, tu sais. Puis la question qu'il faut se demander, c'est c'est quoi assez? C'est quoi qui est comme la base pour moi?
Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 68.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Ambition au féminin. Je suis super contente que vous allez passer ce moment privilégié avec moi pour parler succès, ambition. Dans le fond, c'est quoi avoir une bonne vie, une belle vie à notre image et qu'est-ce qu'on peut créer dans notre entourage, dans les façons dont on fait les choses, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, pour nous mener vers une vie qui va, dans le fond, pas juste nous satisfaire, mais aussi nous rendre fondamentalement heureuse. Alors, c'est une question, j'ai l'impression que je me pose constamment. C'est une question qu'on doit toujours réévaluer, j'ai l'impression, à travers les différentes évolutions qu'on traverse. C'est sûr que, bon, ces temps-ci, il y a eu les épreuves de la COVID, mais malgré tout ça, on vit tous à travers des cycles d'évolution. Et là, je veux pas rentrer trop dans les détails, mais tu sais, vous savez, moi, j'ai déménagé. Il y a eu tout ce qui s'est passé avec la naissance de ma fille, avec l'entreprise aussi, avec M ta marque, avec le fait que j'étais en congé de maternité, là, je le suis plus, et là, les décisions qui viennent avec, et puis, à travers une courte période de temps, comme une année, c'est fou comment, justement, les questionnements autour de c'est quoi une bonne vie, comment on veut la vivre, comment on veut prioriser notre temps aussi, viennent vraiment influencer les différentes actions qu'on va prendre. Aujourd'hui, dans cette thématique-là, je reçois Julie de Saison, Julie Tremblay-Potvin, qui est une des deux cofondatrices de Saison, et on va justement discuter de succès. On va discuter un peu de conciliation, mais on a beaucoup parlé de comment pas tomber dans le piège de la bucket list. Comment pas tomber dans le piège de se donner des ambitions pour les autres, de se donner des métriques de succès qui ne sont pas les nôtres. Et vous allez voir, on a eu une super bonne conversation sur comment aussi peut-être jongler à travers les différents chapeaux, même si c'est pas une expression qu'elle aimerait peut-être que j'utilise pour parler de notre conversation, mais on a une conversation super nuancée sur la notion justement de succès, de présence à soi et de conscience de notre vie dans le fond. Alors, un peu à propos de deux saisons, Marie-Andrée Macroux et Julie Tremblay-Potvin, c'est les deux stratèges en développement de personnes et des organisations chez Deux Saisons. Les deux sont mères, sont des entrepreneurs à succès et sont des stratèges d'expérience et elles ont fondé l'entreprise de saison afin d'aider les Québécois à vivre et travailler de façon saine et porteuse de sens dans un monde en changement. Au fil des années, leur expérience professionnelle jumelée à l'arrivée de leurs enfants leur ont fait prendre conscience de la nécessité de revoir leurs priorités, leur façon de travailler et leurs objectifs afin d'atteindre une meilleure conciliation travail, famille, vie personnelle. Alors, on a des cheminements assez semblables, puis on en parle un petit peu dans l'épisode, Julie et moi, et on se rejoint beaucoup sur la mission aussi de c'est quoi, dans le fond, arrimer une vie professionnelle qui va nous servir, qui va être à l'image de ce qu'on veut vivre aussi au niveau personnel. Donc, je prends pas plus de temps parce que l'entrevue est très, très intéressante. Je vous laisse là-dessus et je suis curieuse, comme toujours, de vous entendre, que ce soit dans les commentaires de l'épisode ou sur iTunes ou peu importe sur Instagram quand vous m'écrivez, j'adore vous lire. Savoir qu'est-ce que ça a résonné chez vous. Est-ce que vous réfléchissez à cette notion de succès-là? Qu'est-ce que ça vient générer chez vous aussi comme réflexion? Donc, je vous laisse avec Julie et on se voit la semaine prochaine. Bonjour Julie, bienvenue sur l'Ambition féminin. Je suis contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment ça va?
Ça va super bien, merci de m'accueillir.
Donc, tu es la moitié de la dyade de saison. On a décidé que c'était mieux comme ça, question clarté, mais tu as ta partenaire aussi qui est là en esprit avec nous.
Ben oui, Marie-André, en fait, on a décidé, je te dirais qu'on s'est dit à la blague, mais je vais aller seule, puis comme ça, la prochaine fois, ça sera toi, parce qu'on a pas deux, chacune, ben, je pense qu'on aurait raconté un peu la même histoire pour deux saisons, mais on a deux profils différents, mais intéressants, je pense, quand même. Donc, on s'est dit que chacune, on avait beaucoup de choses à dire, donc c'était peut-être mieux qu'on se partage la part.
Ouais, puis le sujet que vous traitez est quand même assez vaste, donc ouais. Who knows? Je suis pas mal sûre qu'il pourrait y avoir une deuxième partie à cette entrevue. Alors, justement, pour commencer, pour contextualiser, veux-tu nous raconter un petit peu comment est née De Saison? Puis comme, tu sais, qu'est-ce que vous faites concrètement dans le day-to-day?
De Saison, on est une entreprise un peu hybride, en fait, là, tu sais, on a plusieurs volets, mais à la base, je te dirais qu'on, notre mission, c'est de faire la promotion des nouveaux modèles d'organisation du travail, en même temps qu'on veut insuffler le courage de passer à l'action et de créer son propre modèle, là, de satisfaction, travail, famille, vie personnelle. Donc, c'est un peu une école, si on veut, de développement du leadership de soi à travers l'école de saison. En même temps que c'est un magazine qui fait la promotion, magazine web, là, la promotion de d'idées, puis de méthodes et de trucs ou d'agents de changement, si on veut, qui osent faire les choses un peu différemment. Au même titre qu'on fait concrètement là, de la formation, on développe des outils concrets pour le quotidien. On est vraiment dans l'art de vivre et de travailler. C'est ça notre signature. Puis on voulait vraiment ramener les deux ensemble, là, parler de vie et de travail, mais pas juste pour les entrepreneurs, c'est vraiment pour l'ensemble des gens qui espéraient avoir un meilleur équilibre entre leur vie et leur vie personnelle et professionnelle et même familiale, je dirais. Donc, c'est pour ça qu'on a créé De Saison, puis qu'on a décidé d'aborder ça dans un sens large sur l'art de vivre et de travailler. Mais en ce moment, ce qu'on fait principalement au quotidien, c'est vraiment animer des formations, des conférences, autant dans notre communauté qu'au sein des organisations. Donc, souvent, on va avoir un mandat en entreprise, on va aller faire une conférence ou on va aller faire une formation sur la gestion de l'espace mental et du temps. Ou sur comment justement cultiver un petit peu plus de santé psychologique et de satisfaction et de saine performance au travail. Donc, c'est pas mal cool. Nos thèmes.
Cool, cool. Puis, comment ça s'est manifesté dans votre vie? Tu sais, ça existe depuis combien de temps? Puis, je sais que, tu sais, est-ce que vous êtes toutes les deux mamans, toi et Marie-André? Est-ce que c'est venu après votre maternité ou avant? Comment ça s'est manifesté? Ouais.
C'est un peu un mélange des deux, mais oui, De Saison en soi est arrivé au moment où dans notre vie, on était deux mamans qui avaient fini de construire leur famille, si on veut, donc on était de retour dans le monde du travail, puis là, on se questionnait à savoir, c'est quoi la prochaine étape pour nous? Est-ce que Est-ce qu'on veut comme suivre le chemin traditionnel puis accéder à des postes de plus de responsabilité, plus des postes de direction, par exemple? On était dans le domaine des communications, du marketing. Ou est-ce qu'on veut quelque chose d'autre? Puis on s'est comme retrouvé autour d'un café à un moment donné, un vendredi midi, puis on a jasé de ça, puis on s'est rendu compte que toutes les deux, on avait la même définition du succès. Puis c'était pas nécessairement cette définition-là traditionnelle, finalement. Étant deux filles très entrepreneuriales, très intrapreneuriales, quand je te dis, on est arrivé comme au point de à croiser des chemins en même temps, mais on avait un historique un peu différent chacune, mais qui se ressemblait quand même. Là, on était très engagées dans notre carrière, mais aussi, on voulait passer beaucoup de temps en famille, on voulait une certaine latitude, une certaine flexibilité qu'on retrouvait pas, puis on se disait que si on va accéder à un poste plus élevé, on l'aura peut-être encore moins. Donc là, comment on va composer notre modèle, tu sais, pour trouver notre compte. Mais on a décidé de créer deux saisons, un peu pour le créer, ce modèle-là qu'on trouvait qu'il n'existait pas vraiment, ou que les gens peut-être avaient des fois des doutes sur le fait que ça se pouvait. Nous, on a dit, on va essayer de le créer, ce modèle-là, où est-ce qu'on va, on va mettre la famille en premier, la flexibilité en premier, mais tout en misant quand même sur la saine performance pour bâtir une entreprise qui est en santé financière. Fait que c'est vraiment
C'est intéressant parce que je me posais la question personnellement aussi récemment sur comment est-ce que je définissais le succès. Est-ce que c'est nécessairement relié aux autres, tu sais, est-ce qu'on peut vraiment le définir par rapport à notre propre satisfaction personnelle ou l'impact qu'on a dans la vie, ou tu sais, parce que quand on parle de vie personnelle et professionnelle, veut pas, il y a un côté qui est tourné vers soi puis un côté qui est tourné vers les autres. Puis vous, dans votre cas, toi, t'as-tu l'impression que il y en avait un côté, mettons le perso, qui souffrait plus que l'autre au moment où t'as créé deux saisons?
Je te dirais que il y avait un... En fait, ce que je vivais, moi, plus spécifiquement, c'était la quête de sens. Parce que au travail, dans le fond, mon historique était que j'avais déjà lancé plusieurs projets entrepreneuriaux, intrapreneuriaux, puis j'étais très, très motivée par le sens. Puis moi, le sens de mon travail, c'était justement faire la promotion, créer des nouveaux modèles d'organisation qui sont bienveillante, sainement performante, puis construire un peu l'avenir à travers tout ça. Puis au moment où on a décidé de créer deux saisons, j'étais stratège de marque dans une agence de communication, hein, un peu comme on a un profil qui se ressemble, là, tantôt je t'écoutais. Mais j'avais aussi créé une grande communauté qui s'appelait Les Inspirés. On était comme 8000 jeunes professionnels, on avait un blog avec 300 articles, tout ça. Puis à un moment donné, j'avais dû mettre ce projet-là de côté parce que c'était trop un side project avec mon emploi, avec ma famille. Donc, il y avait quand même ce désir-là de ramener le sens là au premier plan et pas juste travailler pour des clients, mais aussi travailler pour bâtir quelque chose qui serait comme mon propre projet, puis le voir prendre vie. Donc, c'est sûr qu'il y avait ce désir-là qui était très, très fort. Fait que je te dirais que c'est plus au niveau professionnel que je souffrais. Puis en même temps, je voulais avoir du temps, une certaine liberté sur comment j'utilisais mon temps. Et j'étais certaine d'être capable d'être productive sans nécessairement suivre les règles préétablies du monde du travail. Où est-ce que, tu sais, bon, il y a des choses qu'on se permet pas de faire parce que, bon, ça serait créer un précédent ou ce serait, c'est pas comme ça qu'on travaille. Tu sais, il y avait comme une certaine résistance. Puis, tu sais, par exemple, comme quand je voulais aller chercher mes enfants à l'école tôt, c'était important pour moi. Je voulais avoir du temps à l'extérieur, je voulais avoir du temps en nature. Quand on est au bureau, on peut moins l'avoir, là, en ce moment. Tu sais, on savait pas qu'il y aurait la pandémie avec tout le télétravail qui ça amène et tout ça. Mais ouais, ça faisait partie de nos préoccupations à toutes les deux. Puis Marie-André, elle, de son côté, elle avait fini une entreprise, sa propre entreprise, là, qu'elle avait fini ce projet-là, puis elle se demandait quel serait son prochain projet. Puis elle avait un peu le même désir là, de bâtir quelque chose qui serait un peu à notre image. Donc, on a décidé de... C'est vraiment ce qui nous a poussé là. Je dirais qu'il y avait un peu des peines dans chacune des sphères, mais c'était plutôt de s'épanouir au travail sans pour autant que ça prenne toute la place.
Je comprends. Puis, tu sais, cette tension-là, j'ai l'impression qu'on... En tant que femme, on la vit particulièrement. Est-ce que tu as l'impression que... parce qu'en fait, Moi, je me rappelle le moment où j'ai appris c'était quoi le concept de charge mentale. Je m'en rappelle très bien dans ma vie parce que ça a été comme une grande réalisation. Puis ça fait pas si longtemps que ça, là, je dirais ça fait peut-être 5 ans là, que j'y ai pensé. Mais tu sais, ça a aussi suscité genre des grosses remises en question, non seulement par rapport à moi-même, mais par rapport à mon couple, par rapport aux conversations que j'ai dû avoir avec lui. Tu sais, as-tu l'impression que à travers toute cette recherche de conciliation-là ou cette recherche de balance-là, il y a quand même une pression qu'on se met à travers tout ça de, encore une fois, faire un travail de plus pour juste se sentir bien?
Ben, je pense que le concept de charge mentale, je te dirais que de mon côté, j'ai dû l'approfondir pour voir comment ça s'appliquait dans ma vie, parce qu'évidemment, j'avais l'impression d'avoir le mental complètement saturé puis d'être très occupée mentalement, tu sais. Mais j'ai aussi un conjoint ultra impliqué qui fait énormément de choses dans la maison et, tu sais, qui a lui-même la charge mentale. Donc, il exécute pas, tu sais, il parle lui-même, il pense un peu à tout. Donc, je te dirais que la charge mentale chez nous est un peu dédoublée, dans le sens où on est les deux préoccupés, puis... finalement, moi, j'avais pas l'enjeu de transférer de la charge mentale, mais dans notre couple, on avait un autre enjeu qui était de bien diviser la charge mentale pour se faire confiance, puis, tu sais, fermer des tiroirs dans notre tête. Mais d'une part, de mon côté, je me suis rendu compte, tu sais, que ce qu'on dit souvent, les filles ont une charge mentale plus élevée, mais c'est parce qu'ils se mettent des exigences plus élevées, t'sais. Ça me chicotait un peu parce que je me disais, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Parce qu'on se contente moins de peu, tu sais, puis à quelque part, tu sais, dans nos formations, on en parle beaucoup parce que j'ai vraiment étudié la question, puis moi, dans mon cas, je me suis rendu compte que la charge mentale était aussi beaucoup une charge, non pas de tâches, de choses à penser ou à faire, mais une charge de désir, puis de désir infini, là. Je pense que c'est pas juste une question de fille ou de gars, mais c'est qu'une question d'air du temps, là. C'est vraiment dans l'air du temps. Cette culture-là de vouloir maximiser notre vie, de vouloir faire beaucoup de choses, le sky's the limit, là, si on veut. Tu sais, on le porte en nous, je trouve. Moi, c'était vraiment quelque chose, tu sais, j'avais une longue liste de rêves, j'avais comme un tableau Pinterest qui débordait de plein de choses, puis je me disais, pourquoi pas, tu sais. Mais penser quelque chose, c'est plus rapide que de le faire et de le réaliser, tu sais, comme les rénaux, tout ça, là, tu sais, c'est facile d'avoir plein de belles images dans notre tête, mais ça prend du temps à l'exécuter. Puis ce réalisme-là, tu sais, à un moment donné, j'ai fait un exercice de simplification vraiment, moi, mentale, pour me libérer de tous ces désirs-là qui, finalement, prenaient beaucoup de place dans ma tête. Fait que oui, il y avait une question de ça dans mon cas, mais aussi, je trouve qu'il y a un autre volet de la charge mentale qu'on néglige, c'est la charge émotionnelle, tu sais. C'est toute la charge des émotions, puis de tout le discours intérieur qu'on porte autour de nos émotions, mais aussi de notre ressenti. Quand on comprend mieux que nos pensées génèrent des émotions, nos émotions, tu sais, génèrent du stress ou un sentiment de fatigue, et ça peut tourner en boucle dans notre tête. Ben moi, pour le réaliser, il a vraiment fallu que je fasse à un moment donné, j'ai eu un genre d'épuisement psychologique, là. Même je me suis rendue jusqu'à, tu sais, il n'y avait plus rien qui rentrait dans ma tête. C'était vraiment, c'est drôle parce que on travaillait déjà sur deux saisons, puis c'était déjà dans notre mission, tu sais, de parler de tout ça, de conciliation et tout ça. Mais c'est comme si que, justement, peut-être qu'on travaillait là-dessus parce qu'on le ressentait dans notre vie. Mais moi, à un moment donné, on travaillait sur deux saisons, puis j'avais encore mon emploi à temps plein, puis à un moment donné, c'était juste trop, là. Puis c'est drôle, ça fait comme 2 ans présentement, c'est comme 2 ans, là, le 14 février que j'étais partie en arrêt de travail. Puis pour moi, ça a été un peu le point de bascule, parce que c'est là que je me suis mise vraiment à intégrer tous ces concepts-là que je connaissais, mais là, de pouvoir vraiment l'expérimenter. Puis là, après ça, on est devenu à temps plein dans 2 saisons. Je suis pas retournée à mon emploi parce que là, c'était comme le point. À un moment donné, il a fallu que je fasse des choix pour pouvoir alléger cet espace mental-là. Parce qu'on peut pas tout tenir à bout de bras, justement, tu sais, à un moment donné. Oui, comme tu dis, tu as eu une discussion, toi, peut-être, dans ton couple, ben, tu sais... Moi, je l'ai eu avec moi-même aussi, je te dirais. Là. Oui, en couple, mais aussi avec moi-même.
Ouais, absolument, absolument. Puis c'est super intéressant ce que tu dis de cette charge de désir qu'on se met. Puis ça tombe bien qu'on soit sur le podcast L'ambition au féminin, parce que tu sais, des fois aussi, puis ça revient un peu à la question du début où on parlait du succès, de vraiment être capable de définir le succès pour nous, je trouve que c'est un exercice qui est vraiment difficile à faire, de s'assurer qu'on n'est pas en train de juste peut-être émuler ou demander à d'autres ou à l'extérieur ou à la pression sociale de nous dire ce qu'on devrait faire, tu sais. Mm. Je pense que ça prend quand même un gros courage, puis c'est pour ça que ça m'intéresse aussi de t'entendre peut-être sur la notion de self-leadership ou leadership de soi que t'as mentionné au début, puis comment c'est important à développer pour être capable justement de se donner non seulement des barèmes et des balises, mais aussi des limites à cette charge émotionnelle et cette charge de désir.
Mm. Ben absolument. Puis en fait, c'est de trouver nos propres réponses. C'est pas nécessairement évident parce que c'est sûr que nos désirs, ils naissent souvent par des modèles, parce qu'on va voir, tu sais, on va voir dans notre environnement des éléments, puis on va dire « Ah, oh, j'aimerais ça moi aussi avoir ça, ou ça, ça m'appelle, ou j'aime telle chose, ou ça, ça m'attire, ou ça, c'est mon rêve. » Donc, on construit un peu notre idéal à partir de ce qu'on voit autour de nous. Donc, puis on a un désir d'appartenir aussi, tu sais, tout ça, c'est tout comme intermélangé, si on veut, là. Donc, quand on est une personne ambitieuse, bien, on a comme l'impression que l'ambition, tu sais, justement, ça a un certain modèle, hein. Puis mm-hmm. Je trouve ça intéressant que, tu sais, toi, tu dises, peu importe ton modèle d'ambition, puis peu importe ton modèle de succès qui est notre discours également. Puis, je trouve que c'est facile, il y a comme une prise de conscience à un moment donné, parce que c'est trop facile de se faire une liste de rêves, comme je te disais tantôt, avec voici tout ça à quoi je rêve et tout ça, tout ce que je veux dans ma vie. Puis, tu sais, je veux avoir une entreprise qui a du succès, puis je veux faire tant d'argent dans chaque année, puis j'aimerais ça avoir tel genre de maison, puis j'aimerais ça avoir tel genre d'horaire, puis j'aimerais ça avoir... C'est comme, là, tu sais, c'est comme très, des choses qui sont très, très visibles. Mais mm-hmm. finalement, moi, j'aime bien, dans deux saisons, on parle beaucoup de satisfaction. Puis même au lieu de conciliation, on dit satisfaction, travail, famille, vie personnelle. Puis, moi, étant une grande rêveuse, puis étant une milléniale pure et dure, là, dans le sens où j'ai vraiment été élevée en me faisant dire « Sky is the limit, Julie, tu peux faire tout ce que tu veux, tu sais, tant que tu le décides, là, tu sais, go for it », tu sais. Puis c'est beaucoup ce qu'on voit aussi dans les médias, les modèles qu'on nous montre, des entrepreneurs à succès, des gens, mais on nous montre pas nécessairement l'envers du décor, tu sais. Puis la question qu'il faut se demander, c'est c'est quoi assez? C'est quoi qui est comme la base pour moi? Puis, tu sais, à un moment donné, il faut faire un exercice de... Mon succès, ma satisfaction, elle tient sur quoi, finalement? Puis c'est très difficile, c'est très différent, le sentiment de satisfaction dans le moment présent, puis le sentiment de succès qu'on accole à quelque chose qu'on pense obtenir dans le futur. Puis c'est ça, peut-être, la distinction entre qu'est-ce qui est intérieur à nous, puis qu'est-ce qui est un peu sociétal, tu sais, puis qui est un peu l'image qu'on souhaite projeter ou l'image qu'on pense qu'on va avoir réussi si on s'en va là, si on incarne ce modèle-là. Puis ben l'enjeu, je trouve, le plus difficile, c'est de trouver son propre modèle. Donc, tu sais, d'aller à l'intérieur de soi puis vraiment se dire, OK, si je suis vraiment honnête avec moi-même, mes vraies priorités puis mes vraies valeurs, c'est ça. Puis pour moi, je me sens comme que ma vie est réussie quand je fais telle chose, puis finalement, peut-être que je peux bâtir mon quotidien autour de ces éléments-là, puis je vais avoir le sentiment d'avoir réussi, plutôt que de viser une vision comme qui est dans l'avenir, puis qui est abstraite, mm-hmm. puis de me demander comment y aller, tu sais. Puis ça, c'est déjà une façon de se libérer un peu de tout ce qui est comme un excitant. Fait que finalement, tu sais, on cherche beaucoup qu'est-ce qui est excitant, mais la satisfaction est moins excitante, mais tu sais, elle est plus apaisante en même temps.
Ouais, c'est fascinant, puis effectivement, c'est là qu'on en arrive avec le leadership, parce que c'est ces choix-là d'être capable de dire « Non, ça, c'est ma priorité maintenant, puis je l'assume, puis je vais faire les actions pour y arriver. » Puis je pense que c'est là que... Puis c'est drôle, hein, parce que pas plus tard que hier, je recevais un message d'une de mes anciennes clientes qui avait fait un de mes programmes, puis... Elle disait, j'ai réalisé que j'étais pas capable de partir ma business, puis être comme la maman que je veux être, puis l'épouse que je veux être. Puis elle me disait qu'elle pensait qu'elle pouvait faire comme moi. Puis je trouvais ça intéressant par rapport à aussi, ben intéressant, tu sais, encore une fois, on en revient à chacun sa propre définition puis sa propre connaissance aussi de soi, puis c'est un bel apprentissage si ça peut l'amener là, dans un certain sens, mais tu sais, j'ai l'impression que le discours « girl boss », tu sais, veut pas, tu sais, nous remet dans une espèce de course contre la montre, puis on en perd ce que t'as dit si bien avec la satisfaction. Donc, comment toi, tu sais que... Comment tu définis satisfaction, puis comment est-ce que tu sais que t'es dans un état où t'es en train de faire la bonne chose pour toi?
Je te dirais que moi, tu sais, c'est ça, comme tu l'as vraiment bien dit, là, c'est une question de connaissance de soi. Puis je pense qu'avant de pouvoir exercer son leadership de soi, il faut bien se connaître. Puis je trouve ça super, l'exemple de ta cliente, parce que des fois, il faut l'essayer, tu sais. Des fois, il faut essayer des choses pour avoir nos réponses. On peut pas avoir nos réponses avant de l'avoir essayé. Il faut qu'on construit un peu notre modèle par élimination. Parce que des fois, certains éléments nous attirent, on l'essaie, puis finalement, ah non, c'est pas pour moi, tu sais. Puis, moi, de mon côté, comment je me rappelle que, en fait, moi, j'ai comme deux volets très forts dans ma personnalité. J'ai un volet très rêveur, comme je te disais tantôt, donc très ambitieux, ambitieux, mais dans le sens très optimiste. Et je suis très créative, donc j'ai des idées, tu sais, de grandeur. Puis je vais croire très fort que ça se peut, puis je vois le chemin dans ma tête sur comment y aller, tu sais. C'est ça, une stratège, c'est un peu ça. Mm-hmm. Puis j'ai aussi un côté très simplicité, j'aime la nature, j'aime être avec mes enfants, j'aime être et ne pas avoir à rien faire, tu sais, être juste comme jardiner, lire. Tu sais, ça, je sais que c'est mon côté. Si j'ai juste ça, tu sais, si je suis sur une île déserte, là, tu sais, je dis tout le temps, en tout cas, tu sais, j'ai comme ce volet-là de je m'auto-suffis avec peu, avec de la simplicité, mais il y a toujours une partie de moi qui a le goût de construire quelque chose. Fait que moi, ce que je trouve difficile, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Fait que pour répondre à ta question, je te dirais que comment je sais que je suis... j'ai fait un bon choix. Je te dirais, c'est la qualité de ma présence. C'est que si je suis j'ai lu un livre dans mon deuxième congé maternité qui a mis des mots vraiment. Ça s'appelle Present Over Perfect. Et, tu sais, étant justement idéaliste, je peux être perfectionniste, tu sais, je vois quelque chose dans ma tête, j'aimerais ça y aller, je voudrais y toucher. Il reste que la vraie satisfaction, elle me vient du sentiment de présence, puis de pas vouloir m'en aller de où est-ce que je suis, tu sais. Donc, j'ai comme été plus en profondeur, puis j'ai défini ça, puis je te dirais qu'il y a aussi un sentiment d'être en train d'apprendre. Donc, tu sais, des fois, c'est inconfortable, là, la satisfaction. Tu sais, c'est pas vrai que la satisfaction, t'es toujours chassis dans mon divan avec un thé, là. Tu sais, peut-être que la satisfaction aussi, elle peut être déstabilisante. On peut se sentir complètement hors de notre zone de confort, mais être vraiment satisfaite. Tu sais, moi, ça m'arrive souvent parce que, comme là, on développe une entreprise, tu sais, on est souvent hors de notre zone de confort. Mais en même temps, j'ai l'impression que d'être vraiment à la bonne place parce que je suis en train d'apprendre puis à un rythme d'apprentissage qui serait pas possible dans une autre organisation, par exemple. Fait que moi, ça fait partie de mes valeurs, tu sais, l'apprentissage en continu. Donc, quand je sens que j'apprends, je suis très satisfaite, même si c'est pas parfait, même si j'ai pas atteint mon objectif en soi, je préfère... Mon objectif, c'est l'apprentissage, tu sais. Fait que c'est ça, je sais que ça me parle beaucoup. Sinon, ben la qualité de la présence. Fait que si... si je suis toute là, puis que j'ai bien vécu chaque moment, ce que la vie m'a amené dans ma journée, tout ça, puis que j'ai répondu présente, si on veut, là, tu sais, vraiment, ben, pour moi, c'est ça la satisfaction, tu sais. Je sais pas si ça fait du sens, là.
Ouais, ça fait du sens. Même si, tu sais, puis ça fait du sens parce que moi, je fais beaucoup de self-coaching, puis de choses comme ça, mais. Puis c'est difficile, tu sais, d'être présent à soi, puis même être présent dans ses émotions, puis comme tu dis, dans ses inconforts. Mais j'ai l'impression aussi que c'est peut-être aussi un skill ou une aptitude qui doit être développée. Mm. Puis là, ça mène à savoir, tu sais, sur quoi vous mettez l'accent quand vous faites, mettons, t'sais, votre formation pour gestion de l'espace mental du temps et la conciliation travail-famille, t'sais, vous commencez avec quel genre de... Vous, de saison, je dis bien.
Oui.
Vous commencez avec quel genre de focus, t'sais, parce que je me dis, ben là, apprendre au monde à être présent à soi, ça doit être quand même assez complexe.
Oui, ben oui, t'as raison, ben c'est vraiment là qu'on part, sauf que, tu sais, exemple, la méditation, c'est quand même intimidant. Donc, nous, mm-hmm. on a développé différents exercices, différents concepts, différents petits réflexes qu'on enseigne dans cette formation-là, qui est toujours le point de départ pour reconnecter à soi. Puis, tu sais, on essaie que ça soit justement 5 minutes à la fois, que ce soit en mouvement, par exemple, tu sais, puis on a des exercices guidés, on a des audios, on a des outils quotidiens aussi pour que ça devienne un réflexe de se reconnecter à soi. Mais tu sais, avant même que les gens fassent ça, il faut qu'on leur apprenne la bienveillance, qu'on leur donne un peu la permission d'être bienveillant envers eux-mêmes, puis de partir de soi pour construire un peu leur journée ou construire leur vie ou leur vie personnelle, professionnelle. Mm-hmm. Mais partir de soi, mais tu sais, parce que des fois quand on dit à partir de soi, oui, mais je vis pas toute seule, tu sais. Mais c'est quand même le premier pas. Tu sais, quand tu te reconnectes à toi, après, c'est plus facile de te connecter aux autres, puis d'être empathique avec les autres, puis après ça, de bâtir quelque chose qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Tu sais, je pense que ça, c'est une notion qui est importante aussi parce que, tu sais, quand on n'est pas nécessairement des jeunes professionnels qui vivent seuls dans un appartement, puis que, tu sais, on peut tout décider pour nous-mêmes, là. Je veux dire, on a des familles, on a des conjoints, tu sais, il reste que la vie est faite de compromis aussi, puis c'est important, tu sais, nous, ce qu'on enseigne, c'est un peu l'idée de développer ses réflexes de réflexion stratégique, mais tu sais, stratégique dans le sens, l'objectif, c'est qu'on ait quelque chose qui est gagnant-gagnant puis qui rassemble les gens autour de, tu sais, puis qui permette d'avancer ensemble. Fait que ce soit à l'échelle d'une famille ou que ce soit à l'échelle d'une équipe ou d'une organisation complète, l'idée, c'est de partir de soi, de son ADN, de ses valeurs, de ses besoins en ce moment, tu sais, puis d'avancer avec agilité. Puis pas nécessairement de faire un grand plan pour 5 ou 10 ans, mais vraiment d'apprendre à naviguer le quotidien et à rebondir au fur et à mesure que nos apprentissages nous donnent des réponses différentes aussi. T'sais, tu disais tantôt ta cliente, mais quand elle s'est rendue compte que finalement, c'était pas le modèle pour elle, mais ça veut pas dire qu'elle a encore trouvé son modèle, elle continue sa quête. Puis elle va continuer d'essayer des choses, mais maintenant, elle a de la nouvelle information, une nouvelle intelligence sur elle-même qu'elle va pouvoir réintégrer dans sa stratégie, si on veut, ou dans son exploration. Fait que, tu sais, c'est le process qu'on enseigne, c'est ça, tu sais, c'est revenir, se reconnecter à soi, se reconnecter à la nature aussi, puis se reconnecter aux autres, puis après ça, tu sais, avancer, passer à l'action un petit pas à la fois. Je dirais que c'est pas mal notre équation du leadership de soi.
Ouais, puis c'est... Puis je pense beaucoup à ça récemment parce que c'est aussi le... j'ai l'impression que dans notre société, on aime ça se compartimentaliser, tu sais. Puis dire comme, ah, ça c'est moi l'entrepreneur, ça c'est moi la professionnelle, ça c'est moi la maman, ça c'est moi dans tel aspect de ma... Ça c'est moi dans la nature, ça c'est moi qui relaxe. Mais de recommencer à le voir comme un tout, ça doit... ça doit quand même être assez utile et nécessaire pour créer vraiment une vie qui va faire du sens.
Souvent, ce qu'on va dire, c'est qu'on a juste un cerveau. T'sais, tout ça, ça se passe dans notre tête. T'sais, notre conception de notre existence, de notre vie, de notre réussite ou de notre non-réussite, ça se passe dans notre tête, finalement. T'sais, ça se passe dans notre discours intérieur. Puis, on a juste un cerveau, fait moi, je trouve que ce que tu viens de décrire, là, de dire j'ai plusieurs facettes à ma vie, j'ai plusieurs couches, plusieurs volets, moi, ça me stresse. T'sais, je trouve ça stressant de devoir concilier toutes ces facettes-là, toutes ces attentes-là envers soi-même et envers la vie parce que ça contribue au trop, t'sais, ça contribue au beaucoup, je veux faire beaucoup de choses, je veux être beaucoup de choses en même temps. Puis, tu sais, finalement, c'est ça qui nous épuise peut-être là. Tu sais, c'est je sais pas si t'en parles des fois dans tes contenus, mais tu sais, une statistique qui nous donnait froid dans le dos là, c'est je te racontais que j'avais fait un arrêt de travail moi-même, un épuisement qui a pas duré longtemps parce que je pense que c'était au bon moment que j'ai tiré la plug, mais à ce moment-là, j'avais au moins 4-5 amis qui étaient en arrêt de travail ou qui étaient en épuisement psychologique. Puis la statistique qu'on a trouvée, c'était avant la pandémie, imagine là. 66% des 18-34 ans avaient déjà fait un épuisement psychologique avant la pandémie. Là, fait que 66%, c'est énorme. sais, il y a quelque chose qui se passe dans notre société qui nous étouffe un peu, là, que c'est comme trop. Puis moi, ce que je trouve, c'est qu'à un moment donné, ça nous paralyse aussi, là. Fait que, tu sais, on est comme, on veut beaucoup de choses, on sait pas par commencer, on essaye beaucoup, puis on s'épuise, tu sais. Fait que finalement, avec la pandémie, c'est comme un peu pire en plus, la santé psychologique. Fait que je pense que c'est important qu'on revienne à notre cerveau, tu sais. On a un seul cerveau, puis comment, qu'est-ce qui est réaliste, puis qu'est-ce qui est assez aussi pour cultiver notre satisfaction. Puis en sachant que, tu sais, on n'est pas obligé de tout faire ça en même temps non plus, là, tu sais, la qualité de notre présence est impactée aussi par combien de dossiers ou combien de projets on mène de front. Tu sais, je te disais tantôt, j'ai déjà eu un projet d'entrepreneuriat social en même temps qu'une job à temps plein, en même temps que deux jeunes enfants, des congés maternité. À mon premier congé maternité, là, je me suis dit, mon deuxième, je veux pas le passer comme ça parce que j'en ai pas profité assez. Tu sais, je me sentais toujours coupable de pas être en train de travailler sur mon blog ou mon projet. Tu sais. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui le vivent, là. Tu sais, on veut comme optimiser notre temps, mais est-ce que finalement c'est réaliste, ça, pour une seule personne, pour un seul cerveau, tu sais?
Non, absolument. Absolument. Puis, tu sais, on en revient tout le temps à ce qu'on, la fameuse question, tu sais, quand tu vas être sur ton lit de mort, est-ce que tu vas te rappeler des projets que t'as fait, ou est-ce que, tu sais, de quoi tu vas te rappeler vraiment, puis qu'est-ce qui va déterminer si oui ou non t'as vécu une vie comme tu le voudrais. Super intéressant. En tout cas, c'est une belle mission que toi et Marie-André, vous avez avec De Saison. Je pourrais en discuter vraiment, vraiment, vraiment longtemps, mais où est-ce qu'on peut en savoir plus sur vous, sur, tu sais, vous suivre, sont où la majorité de vos contenus que vous partagez?
On a un blog, en fait un magazine web au desaisons.ca. Ça, c'est vraiment l'ensemble de nos billets sont hébergés là. Puis il y a tous les billets des inspirés aussi, donc il y a comme à peu près 350 billets sur l'art de vivre et de travailler, la bienveillance, les nouveaux modèles, etc. Donc le meilleur compliment qu'on reçoit, c'est que c'est du comfort reading. C'est comme de la lecture qui fait du bien puis qui nous recharge un peu nos énergies ou qui nous redonne de l'inspiration ou qui nous insuffle une énergie qui est bienveillante en même temps qu'elle nous amène vers l'avant. Puis je trouve que c'est ça l'équilibre, là, en tout cas. C'est ça que je trouve, moi, qui est la formule gagnante, là. C'est comme je prends soin de moi en même temps que j'ai le goût d'avancer. Donc ça, c'est notre blog. Sinon, on a aussi à partir de là, on peut se rendre aussi sur notre boutique qui héberge tous nos outils papier, donc notre papeterie quotidienne, notre boîte à outils qu'on peut recevoir une fois ou une fois chaque saison. Puis on a aussi l'école de saison.ca qui est aussi accessible là, par notre magazine web. C'est là qu'on héberge tous nos audios, tous nos programmes d'accompagnement audio. Donc, nos programmes...
Vous avez un podcast, non? Avez-vous un podcast?
Non, on a fait des programmes en podcast. Donc, nos balados sont... C'est comme un programme, dans le fond. Donc, on a le programme Les saisons, vivre et travailler au rythme des saisons. Puis, on a le programme Satisfaction, travail, famille, vie personnelle, justement, qui amène les gens à se questionner sur leur propre équation de satisfaction. Puis ça, c'est des programmes en petites capsules audio qu'on peut écouter en marchant, qu'on peut écouter... c'est loin des écrans, c'était quelque chose qu'on voulait vraiment dans notre expérience. Donc ça, c'est nos balados sont dans nos programmes. Dans le fond, on n'a pas de balado qui est public pour l'instant. Ça ne veut pas dire que c'est pas dans les projets, mais pour l'instant, c'est dans le trop. On n'a pas le temps de le faire encore. Mais on a ça. Cool. Fait qu'on a ce projet. Il y a des exercices là-dedans, puis ça vient avec des outils aussi. Fait que ça, c'est notre école de saison. Puis on a, comme je te dis, la boutique puis le magazine.
Essentiellement. Super, je vais mettre tous les liens naturellement. Dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent aller regarder ça. Puis ouais, vraiment là, j'aime beaucoup aussi la vibe de votre site puis tout ça là, c'est apaisant, puis je regardais vos programmes puis ça me faisait penser à un cover d'un disque genre de Vivaldi ou quelque chose. Fait que non, c'est très cool. Puis est-ce que vous donnez des fois des ateliers live ou c'est vraiment juste vraiment exclusif aux formations qu'il y a dans la boutique?
Oui, en fait, ben ça arrive de temps en temps qu'on a des conférences ou des ateliers live, soit sur notre page Facebook là ou sur notre Instagram qu'on va l'annoncer. Des fois aussi on a des partenariats. Donc dernièrement on a fait une conférence pour Belle Cause, pour la cause. Donc ça c'était comme grand public. On veut en faire là à peu près une fois par saison pour suivre notre concept là. Chaque début de saison, on considère que c'est un moment pour se poser. Donc, pour rebondir puis intégrer nos apprentissages. Donc, oui, sur notre page Facebook, si les gens veulent aller nous suivre, là, ils vont voir, il y a un événement qui arrive pour le printemps, puis il y en aura un aussi juste avant l'été. Donc, puis cet été, on veut vraiment travailler. On se dit, l'été, c'est un bon moment pour prendre du recul, justement, sur notre vie personnelle, professionnelle, et se demander qu'est-ce qu'on veut pour la prochaine étape, puis et où notre satisfaction. Puis surtout, comment on peut bâtir un modèle avec les contraintes qu'on a, puis dans la réalité qu'on a, puis c'est quoi le prochain pas qu'on va faire. Des fois, c'est ça qui est dur de savoir, là, c'est quoi mon prochain pas. C'est un peu le défi qu'on veut se lancer cet été, puis lancer à notre communauté, de prendre un peu de temps pour ça, pour réfléchir à ça.
Super. Ben merci beaucoup, beaucoup pour ce partage. C'était vraiment très agréable et très intéressant de voir cette optique-là sur... On n'a pas utilisé le mot, là, mais performance. et juste être la meilleure version de soi, comme le cliché le veut. Et je te souhaite vraiment une belle journée, puis j'espère que ça va aider plein de monde à découvrir votre entreprise, que c'est une super belle mission. Merci beaucoup, Julie, pour ta présence.
Merci à toi pour l'invitation.
Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!